d'Europe, animé par Jean-François Biardot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin.
À l'occasion des élections de 2019, les institutions européennes ont multiplié les campagnes de communication pour expliquer ce qu'apporte l'Union européenne aux 450 millions d'Européens. Et alors, vous souhaitez, Daniel, reprendre cette pédagogie ?
En effet, car en dépit des efforts déployés, l'influence de l'Union dans leur vie quotidienne n'est que très approximativement perçue par les Européens. Je vous propose donc d'analyser l'impact de l'Union européenne dans la vie des Européens au travers des différentes facettes de, je crois Jean-François, on dit l'homo europeanus.
On dit ce qu'on veut.
On dit ce qu'on veut. Bon,
c'est une radio libre.
D'accord. Ce sera donc le ou la citoyenne, le ou le travailleur ou la travailleuse, le consommateur ou la consommatrice et le voyageur ou la voyageuse.
Sachant bien qu'on peut être tout cela à la fois. Alors, dans l'ordre où vous les avez annoncés quand même, il y a le citoyen. Mais alors, existe-t-il une citoyenneté européenne ?
Alors, la citoyenneté, je vous le rappelle, c'est un statut juridique permettant à un individu de prendre part à la vie politique et publique de la cité, c'est-à-dire en fait du pays dont il est ressortissant. La citoyenneté est conférée par la nationalité et elle implique un lien avec l'État qui garantit les droits et impose les devoirs aux citoyens. Or, c'est vrai, il n'y a pas de nationalité européenne, il n'y a pas d'État européen. Et pourtant, le citoyen européen, ou plutôt le citoyen de l'Union européenne, existe. La citoyenneté européenne a émergé par étapes. En 1974, au sommet de Paris, un groupe de travail a reçu pour mission d'examiner la possibilité d'attribuer des droits spéciaux aux ressortissants de la Communauté économique européenne, CEE. 10 ans plus tard, en 1984, lors du Conseil européen de Fontainebleau, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ont affirmé, j'ouvre les guillemets, qu'il est indispensable que la communauté réponde à l'attente des peuples européens en adoptant les mesures propres à renforcer et à promouvoir son identité et son image auprès de ses citoyens et dans le monde. Avec les accords de Schengen en 1985, qui annoncent l'abolition des frontières entre les États signataires et la suppression des contrôles, la question devient prégnante et il faut attendre finalement 1992 pour que le traité de Maastricht institue la citoyenneté de l'Union.
Alors, qu'est-ce que c'est précisément que cette citoyenneté de l'Union ?
Alors, la citoyenneté de l'Union européenne est une citoyenneté de superposition. Elle s'ajoute à la citoyenneté nationale, mais elle ne la remplace pas. La citoyenneté européenne est conférée automatiquement par la nationalité d'un État membre. Il s'agit donc d'une citoyenneté réservée aux ressortissants des États membres. Pour les non-communautaires, les extra-communautaires, comme on dit, elle ne peut s'acquérir que par naturalisation dans un des États membres, selon une législation nationale qui échappe alors à tout regard européen.
Surtout à Malte.
Oui, Malte, Chypre, et puis on...
Bon.
La citoyenneté de l'Union confère plusieurs droits, dont certains sont plus anciens que la citoyenneté elle-même. Inscrit dans le traité de Maastricht, énoncé en 8 articles dans le chapitre « Citoyenneté » de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces droits sont renforcés par le traité de Lisbonne de deux manières. D'une part, la Charte acquiert la même valeur juridique que le traité, ce qui la rend désormais contraignante pour les États. Et d'autre part, le traité de Lisbonne introduit de nouveaux droits.
Alors, quels sont les droits liés à la citoyenneté dans l'Union européenne qui permettrait de dire « je suis citoyen européen » tout comme saint Paul a pu dire « civis Romanus sum ».
Bon, alors on va laisser saint Paul à ses propres... Et je dirais que ces droits sont nombreux et je vous les livre presque tels que formulés dans le traité. Donc, accrochez-vous Jean-François. Il y a le droit à une protection contre toute discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il y a le droit de circuler, de séjourner, d'étudier et de travailler sur le territoire des autres pays membres. Il y a le droit d'avoir un accès égal à la fonction publique nationale, à l'exception de postes sensibles, comme par exemple les postes militaires ou policiers, et à la fonction publique communautaire. Il y a aussi le droit de voter et d'être élu aux élections municipales et à celles du Parlement européen dans l'État membre de résidence, et ce, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Il y a le droit d'être protégé dans un pays tiers par les autorités diplomatiques ou consulaires de n'importe quel État membre de l'Union quand son propre pays n'est pas représenté sur place. Il y a le droit d'adresser une pétition au Parlement européen, de recourir au médiateur européen pour déposer une plainte contre un acte de mauvaise administration commis par une institution européenne, de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'UE et de recevoir une réponse. J'ajoute le droit d'initiative citoyenne permettant à 1 million de citoyens européens d'inviter la Commission européenne à légiférer sur un sujet donné. Il a le droit de s'adresser aux institutions de l'Union européenne dans l'une des langues officielles et de recevoir une réponse dans cette même langue. Il y a le droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union. Et puis enfin, il y a le droit de voir ses droits fondamentaux respectés et protégés, tels que stipulés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, une remarque, il n'y a pas de devoir énuméré dans le traité. Seul le préambule de la Charte des droits fondamentaux pose le principe selon lequel, j'oublie guillemets, la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs.
Alors, la citoyenneté européenne aide-t-elle au développement du sentiment européen?
Oh, elle y contribue sans doute, prenons l'exemple de la liberté de circulation. Mais les limites de son impact sont flagrantes, on le voit très bien, par exemple en matière politique avec des élections non harmonisées et l'absence de véritables débats européens. Aussi, pour développer la citoyenneté européenne, plusieurs dispositifs ont vu le jour. Il y a le programme L'Europe pour les citoyens, 2014-2020, qui vise à faire comprendre l'UE, son histoire, sa diversité et à encourager la participation démocratique des citoyens au niveau de l'Union. Pour approcher l'Union de ses citoyens, il y a aussi des consultations publiques lancées par la Commission lorsqu'elle aborde des politiques ou des mesures législatives. Et il y a les dialogues citoyens qui permettent aux décideurs européens, commissaires et hauts responsables d'échanger avec les citoyens, parfois de façon transfrontalière. Il y a aussi RTF et sa chronique, bien sûr, hebdomadaire. Alors, toutes ces actions, elles sont indispensables. Leur portée ne paraît pas complètement suffisante. On dit.